Chapitre 2. Mes débuts au lycée. Le père Barbotte. Monsieur le proviseur. Une réception courtoise. Il était 7h30, ni plus ni moins, quand la capote s'arrêta devant l'hôtel de France, où mon père avait l'habitude de descendre quand il allait à Châtillon. Un quart d'heure plus tard, suivi d'un homme de peine qui portait la fameuse malle, nous franchissions la porte du lycée. C'était, ma foi, une fort jolie porte qui devait dater du XVe siècle et qui s'arrondissait gracieusement en ogive sur de grêles colonnettes de marbre blanc. D'ordinaire, elle était fermée et ne laissait guère s'ouvrir qu'un guichet assez étroit, taillé dans la largeur de l'un de ses épais battants à clous de fer. Mais ce jour-là, elle était toute béante comme la gueule d'un four, et à chaque instant, on y voyait s'engouffrer des groupes affairés d'élèves et de parents. À gauche, en entrant, s'ouvrait la loge du concierge. Je devais apprendre en peu de temps à ne professer qu'un respect modéré pour le père Barbotte, comme on appelait sans façon ce cerbère huileux et ventripotent. Mais ce jour-là, je dois en convenir, je fus vivement impressionné par les yeux d'un noir de jais, la calotte de velours bleu à gland jaune, les joues rubicondes et la gravité générale de cet important fonctionnaire. C'est à peine si je remarquais qu'il possédait tout juste assez de nez pour pouvoir se vanter de n'être pas absolument dénué de cet utile organe. Sans doute par manière de compensation, sa lèvre supérieure offrait un développement tout à fait anormal. Il me toisa d'un coup d'œil, et à la requête polie de mon père, qui demandait à voir monsieur le proviseur, il répondit presque dédaigneusement. « Grand escalier, porte en face, économa à gauche. » Puis, assumant sans être consulté le droit de donner des ordres aux domestiques chargés de ma malle, il lui dit « Vous, l'ami, allez vous asseoir avec vos paquets sous cette arcade et attendez là qu'on vienne vous relever de faction. » L'arcade ainsi désignée par le père Barbotte formait l'un des côtés d'un cloître qui se développait à droite du vestibule et au milieu duquel on voyait un petit filet d'eau maigrelet danser au soleil levant dans un bassin rond. Cependant, mon père et moi, nous étions arrivés au grand escalier. Nous en avions gravi les marches jusqu'au premier étage et nous nous étions arrêtés devant une double porte en cuir vert sur laquelle on lisait « Cabinet de Monsieur le Proviseur ». Cette porte s'ouvrait sur une antichambre où nous fûmes introduits par un domestique à l'air diplomatique et où se trouvaient déjà, sous la conduite de leurs parents, 8 à 10 élèves, les uns en uniforme, ce qui montrait clairement qu'ils avaient déjà appartenu au lycée, les autres comme moi, dans leur meilleur costume civil et par conséquent nouveau. Il me sera permis de noter à cette occasion que j'avais pour mon compte certaines vestes de velours considérées par tous inlagées comme le dernier mot du luxe moderne. Tandis que nous attendions, assis sur les chaises de cuir qui garnissaient cette grande salle d'attente, aux murs tapissés de cartes géographiques de messieurs Messa et Michelot, nous nous regardions les uns les autres avec une curiosité assez naturelle chez des gens qui vont probablement passer plusieurs années ensemble et qui se voient pour la première fois. Je ne sais quelle impression je pus produire à cet instant sur mes futurs camarades, mais je dois avouer que mon jugement sur quelques-uns d'entre eux ne fut pas des plus favorables. Je leur trouvais en général l'air grognon et maladroit, et la seule figure pour laquelle je me sentis quelque attraction fut celle d'un petit paysan, tout brave et farot dans sa blouse neuve. Il se tenait bien sage sur sa chaise, à côté d'une bonne femme en coiffe blanche, sa mère sans nul doute. Certes, j'étais loin de penser alors que ce petit paysan-là serait un jour un des sculpteurs du siècle et que sous cette blouse bleue battait le cœur d'un grand artiste. Je ne savais pas davantage que Jacques Baudouin deviendrait, avant le soir même, mon ami le plus intime et le plus cher. Mais je me rappelle encore avec quel plaisir et quel intérêt je regardais sa bonne figure sérieuse. Il ressemblait beaucoup à sa mère, et tous les deux, ils étaient intimidés et silencieux. Seulement, de temps en temps, la brave femme, voyant que les autres mamans, dans l'antichambre, ne se gênaient pas pour embrasser leur garçon, se laissait, elle aussi, aller à en faire autant. En vérité, cette grande pièce froide et nue présentait à ce moment un spectacle des plus émouvants. Ce n'était que larmes et baisers, comme si l'on eût été sur le point de se séparer pour le grand voyage dont on ne revient pas. Avoir l'attendrissement universel, on aurait dit que ce privilège glorieux de l'éducation, auquel nous étions tous conviés, fut la plus rude et la plus pénible des épreuves. Ce larmoiement ambiant n'était pas sans produire un certain effet sur mon père et sur moi. En dépit de l'enthousiasme qui m'animait, je vis le moment où nous allions faiblir et tomber en pleurant tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Par bonheur, notre tour d'entrée chez Monsieur le proviseur venait d'arriver et la porte auguste s'ouvrait devant nous. Mon entrée dans le sanctuaire ne fut pas des plus réussies. Il est même incontestable que sur un théâtre, elle m'eût valu les sifflets de l'auditoire. À peine avais-je franchi le seuil et eu le temps d'entrevoir, devant un grand bureau d'acajou, un personnage tout de noir vêtu, au menton rasé de près, aux cheveux poivre et sel et aux lunettes d'or, que je glissais sur le parquet, poli comme un miroir, et que je m'allongeais tout de mon long. Cet accident n'avait rien que de naturel, si l'on songe que mes souliers étaient garnis d'une triple rangée de gros clous destinés à en prolonger la durée, et que les frotteurs de l'université jouissent d'une légitime réputation pour le fini de leur travail. Je ne laissais pourtant pas que d'en être très mortifié, et j'aurais bien voulu être à 100 pieds sous terre quand M. Ruette, c'était le nom du proviseur, après avoir constaté que je ne m'étais fait aucun mal, dit à mon père en souriant. C'est ce qu'on aurait jadis appelé un mauvais présage. Un Romain serait rentré chez lui. Mais nous n'avons pas de superstition, n'est-ce pas, mon enfant ? Ajouta-t-il en me passant la main sur la tête. Je ne comprenais pas très bien cette plaisanterie académique, mais j'étais rouge comme une cerise et je n'osais plus faire un mouvement, de peur de recommencer mes exercices involontaires. L'entrevue ne fut pas longue. Mon père voyait le proviseur fort occupé et n'avait voulu que me présenter à lui. Monsieur Ruette avait reçu un mot de l'inspecteur d'académie qui se portait garant de mon aptitude à entrer en 6e. Il ne restait plus donc qu'à me faire inscrire à l'économa et à me lancer en plein eau. Un coup de sonnette, le domestique parut, reçut les instructions du proviseur et nous sortîmes de son cabinet. J'avais vu tout cela comme dans un rêve. L'instant d'après, je me trouvais avec mon père devant un guichet percé dans une cloison de barreaux qui partageait l'économa en 2 parties. Un jeune employé, d'une élégance suprême, et qui me frappa particulièrement par la longueur prodigieuse de ses ongles bien polis, prit mon nom, m'informa que j'étais inscrit sous le numéro 976, me délivra un petit carton que je devais remettre à la lingerie, et voulut bien encaisser un certain nombre de billets de banque dont mon père allégea son portefeuille. Cela fait, le jeune mandarin nous rendit au bras séculier du domestique qui nous précéda à travers un dédale de couloirs et d'escaliers jusqu'au bâtiment affecté au service de l'habillement. De temps à autre, pendant ce voyage assez long, arrivaient jusqu'à nous par une fenêtre entr'ouverte, comme des bouffées de cris joyeux provenant des cours où les élèves étaient déjà nombreux. La plupart étaient rentrés la veille au soir. La malle ouverte et dûment inventoriée, les bonnets de coton et autres pièces sacramentelles de mon trousseau déposées dans un casier à mon chiffre, il ne resta plus qu'à passer chez le tailleur, un petit bossu déjà fort affairé à couper de larges pièces de drap avec des ciseaux presque aussi grands que lui. Ma mesure fut prise en un clin d'œil et nous redescendîmes au rez-de-chaussée dans le vestibule. L'heure de la séparation était arrivée. J'en savourais en un moment rapide toute la réelle amertume. Mon père et moi, nous étions vivement émus. « Allons, mon enfant, je vais te laisser, » me dit-il. « Sois bien sage et ne perds jamais de vue les promesses que tu as faites à ta mère. Nous viendrons te voir le plus tôt possible. Tâche de n'avoir à nous donner de toi que des nouvelles agréables. » Et il partit. Une dernière fois, je le vis se retourner avant de franchir le seuil pour m'envoyer un adieu de la main. Puis le domestique me conduisit le long d'un large corridor où pénétraient des clameurs d'abord confuses, puis de plus en plus distinctes à mesure que j'avançais. Enfin, nous parvînmes à une barrière à claire-voie qu'il ouvrit. Je la franchis et comme un gladiateur lancé dans le cirque, je me trouvais dans la cour des petits. Quelles furent mes premières impressions en débouchant subitement sur ce grand terrain rectangulaire, planté de trois rangées de jeunes arbres plus symétriques que vigoureux dans leur châssis de bois vert. C'est ce que je ne pourrais guère préciser. Selon toute apparence, j'étais légèrement ahuri par la nouveauté de la scène. Cette cour me semblait d'une étendue immense. Je l'ai revue depuis, elle n'était pourtant pas des plus grandes, et les 70 à 90 gamins qui s'agitaient en se démenant de leur mieux dans cette enceinte me paraissaient au moins 10 fois plus nombreux. Tout tourbillonnait et dansait devant mes yeux comme dans un brouillard trouble. Je restais plantée sur mes jambes dans un état de demi-somnambulisme, plus étonnée de me voir là que le doge de Gênes l'était de se voir chez Louis XIV. Et comme je bâillais ainsi aux corneilles, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, j'entendis la claire voix s'ouvrir derrière moi, et mon petit paysan, le nouveau que j'avais remarqué dans l'antichambre du proviseur, fut à son tour introduit dans la cour. J'avais à peine eu le temps de constater le fait quand une balle de caoutchouc toute neuve vint m'atteindre en pleine figure et rebondit à terre après m'avoir frappé. Quoique le coup fût à la fois douloureux et irritant, je n'aurais probablement soufflé mot si presque au même instant je n'avais aperçu à une vingtaine de pas devant moi une face grimaçante et ironique. Cette face, qui me regardait avec de grands yeux insolents, appartenait à un petit bonhomme très brun, pour ne pas dire très noir de peau, bas sur jambes, comme un des chiens courants de mon père, et tout crépu comme un mouton. Il était évident, d'après son attitude, qu'il était l'auteur de ma mésaventure, et qu'il s'en félicitait hautement, même s'il ne l'avait pas prémédité. D'ailleurs, il s'empressa de ramasser sa balle. Son ricanement m'irrita plus encore que le coup. Je m'élançai vers lui en criant « Dites donc, vous, est-ce que vous avez fait exprès de m'envoyer votre balle dans la figure ?» J'ignorais encore que le tutoiement fut de rigueur. « Moi ?» fit l'autre en affectant un ton des plus cérémonieux, mais avec un accent bizarre et en prononçant tous les R comme autant de W. « Vous vous trompez, monsieur, ce n'est pas moi qui ai eu cet honneur. » « C'est lui, je l'ai vu !» dit une voix derrière nous. Je me retournai. C'était celle du petit paysan. Au même instant, Un roulement de tambour éclata comme un tonnerre sous la galerie voûtée. Les cris et les jeux cessèrent comme par enchantement, et tout le monde se hâta d'aller se ranger sur la gauche en trois colonnes. Nous seuls, les deux nouveaux, hésitâmes sur ce que nous devions faire, et j'eus la mortification de recueillir ces mots prononcés à haute voix parmi les dernières notes du tambour. En voilà deux andouilles. Ce jugement humiliant eut pour effet immédiat de nous faire aller, nous aussi, du côté où les rangs s'alignaient. Et me trouvant tout près d'un jeune maître, je lui demandai où je devais me placer. « De quelle classe êtes-vous ? » me demanda-t-il. « Sixième. Eh bien, vous êtes de ma division. Placez-vous au dernier rang, là, et suivez. » Je fis comme il me disait, et avant d'avoir eu le temps d'y penser, je me trouvais emboîtant le pas avec les autres vers la salle d'études ou quartier numéro 3. Une circonstance me frappa vivement. C'est qu'il était enjoint d'appuyer le pas tant qu'on marchait horizontalement, tandis que c'était considéré comme une pratique funeste en montant ou descendant l'escalier. Il était également interdit de causer dans les rangs. Mais la prohibition était plus théorique que pratique, car elle était constamment violée, et je ne me souviens pas de l'avoir jamais vue sanctionnée par une punition. À peine entrés dans le quartier, tous les élèves y prirent leurs livres et leurs cahiers, et aussitôt un second roulement nous avertit que l'heure de la classe était arrivée. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que tous les mouvements avaient cessé dans le lycée. Toutes les classes s'étaient remplies et l'année scolaire commençait réellement. J'avais observé le conseil du jeune maître d'études et religieusement suivi l'élève placé devant moi. C'est ainsi que je me trouvais, à 8h32 du matin, placé au banc le plus élevé d'un petit amphithéâtre affecté à la classe de 6e. Je constatais qu'il était déjà garni, à notre entrée, d'une 40aine d'élèves externes, admis au lycée entre les deux roulements de tambour. Cette précision de mouvement ne fut pas sans m'inspirer un vague sentiment d'admiration. Du reste, je n'étais pas encore complètement revenu de la secousse physique et morale que je venais d'éprouver. Et je fus bien au moins 10 minutes avant d'oser lever les yeux sur la chaire où siégeait notre professeur, M. Delacour. Il paraissait fort absorbé dans ses papiers, comme je le constatais quand je me décidais enfin à regarder de son côté. C'était un homme d'une 40aine d'années, à la physionomie douce et fine sous sa toque, sans l'ombre de pédantisme ou de prétention. Un détail le peignait tout entier. Au lieu de se tenir raide et guindé dans sa robe professorale, il avait une manière à lui de la porter sur une épaule et de la passer sous le bras opposé, à la façon d'un plaid de voyage ou d'une toge antique, si l'on veut une comparaison plus classique. Tandis que je l'examinais, il leva la tête. « Messieurs, nous dit-il, nous allons commencer par faire connaissance, et pour cela, je vous prie d'écrire chacun votre nom sur une feuille de papier et de me la faire passer dans l'ordre de vos places, en commençant par la droite du banc d'en bas et en finissant par la gauche du banc d'en haut. » Aussitôt, ce fut dans toute la classe un froissement de papier déplié et déchiré, puis un griffonnement général. Les noms dûment écrits, on forma en paquet les noms de chaque table et les deux élèves les plus rapprochés du maître les lui apportèrent à sa chaire. Il commença alors de les lire en levant les yeux, entre chaque appel, pour reconnaître l'élève qui répondait présent. C'est là que j'entendis pour la première fois des noms qui devaient pour longtemps jouer un si grand rôle dans mon existence. Parmentier, Casaubon, Mandresse, Verschuren, Baudouin, Perroche et beaucoup d'autres. Le petit bonhomme aux cheveux crépus, que je considérais déjà comme mon ennemi, s'appelait Tanguy. C'était un créole de la Martinique, ainsi que je l'appris plus tard. À peine l'appel avait-il commencé, que j'avais senti mes cheveux se hérisser sur ma tête, en reconnaissant que l'usage était de se désigner par le nom de la famille seulement. Or, j'avais cru bien faire en inscrivant également mes prénoms. Et Dieu sait que j'en avais une collection respectable, outre celui d'Albert que mes parents me donnaient toujours. À mesure que le moment approchait où mon tour allait venir, je me sentais prêt à tomber en défaillance. « Triple imbécile, me disais-je, ne pouvais-tu consulter ton voisin avant d'écrire cette liste effroyable ? Toute la classe va se moquer de toi. » La gorge serrée par une angoisse inexprimable, j'attendais le moment fatal, quand un incident vint soudain mettre ma terreur à son comble. Monsieur de la Cour, non sans quelque hésitation et en laissant un peu tomber sa voix, venait d'appeler le nom de Piffard. Aussitôt, un externe beaucoup plus grand et vraisemblablement plus âgé que la plupart d'entre nous avait répondu d'un ton nasillard « présent ». Tous les yeux se tournèrent vers lui. Or, le malheur voulait qu'avec ce nom patronymique, déjà suffisamment difficile à bien porter, le nouveau posséda un appendice nasal sensiblement au-dessus de la moyenne, à la fois comme longueur et comme volume. À peine cette série de faits était-elle tombée sous le coup de l'attention générale, que toute la classe partit comme un seul homme d'un éclat de rire homérique. Moi seule, avec le pauvre Piffard, je ne riais pas. Dans le sort qui le frappait, je voyais seulement un funeste avant-coureur de celui qui m'attendait. Cependant, un mot du professeur avait rétabli l'ordre. « Messieurs, avait-il dit, je n'aime pas à punir, mais quand on m'y oblige, je punis bien. La première fois qu'une hilarité aussi inconvenante se produira, je prendrai 10 responsables et je leur certifie qu'ils n'auront plus sujet de rire. » « À la bonne heure, me disais-je, voilà ce qui s'appelle parler. Il n'y a pas de danger qu'ils s'y frottent. » Cependant, à mesure que mon tour approchait, je sentais toutes mes terreurs renaître. Enfin, mon voisin répondit « C'est moi qui allais être appelé. » Il y eut un temps de silence, puis monsieur de la Cour dit simplement « Bénard !» Ouf, j'étais sauvé. On peut penser, si je répondis volontiers « présent ». C'était comme si l'on m'eût ôté un poids de 100 livres de la poitrine. Ma joie fut pourtant de courte durée. J'étais à peine remis de cette chaude alerte quand un papier tout ouvert passa de main en main et finit par m'arriver. Il était à mon adresse et ainsi conçu. « Faites passer à Bénard. Comment va ton oncle de Chartres ?» Je restai un instant à me demander ce que signifiait cette question saugrenue. À l'heure qu'il est, je serais aussi en peine de l'expliquer que je l'étais alors. Mais quel que fût le sens mystérieux de cette formule, un fait me paraissait évident. C'était l'intention qu'il avait dictée. On voulait se moquer de moi. Qui était-ce ? Je n'eus qu'à jeter un coup d'œil sur la classe et à regarder au banc d'en bas pour apercevoir la face grimaçante de Tanguy tournée vers moi d'un air plus insolent que jamais. J'hésitai un instant sur le parti à prendre, puis retournant le billet, j'écrivis au verso « Faites passer à Tanguy. Mon oncle de Chartres présente ses compliments au macaque d'Océanie. » La réponse était presque aussi bête que la question. C'est pourquoi il me sera permis de constater qu'elle eut un succès fou. À mesure qu'elle circulait dans la salle, je voyais les figures s'épanouir une à une. La mine de Tanguy, en lisant le billet, fut si impayable que le surnom de macaque lui en resta pour toujours. Je n'ai certes pas à m'en glorifier. Il n'y a pas de plus sotte habitude que celle de donner des sobriquets. Il n'y en a pas de plus cruelle et de mieux faite pour détruire la bonne camaraderie qui doit régner entre écoliers. Mais enfin, Tanguy avait mérité son sort. Je l'avais par hasard touché à l'endroit sensible, et cette petite escarmouche servit du moins à me faire voir que le seul moyen de mettre les rieurs de son côté, au collège comme au régiment, comme partout, est de ne jamais se fâcher d'une épigramme, mais de ne jamais la laisser sans riposte. Cependant, l'appel des noms avait pris fin. Monsieur de la Cour nous dicta un thème latin pour la classe du soir, puis il nous donna la liste des livres que nous devions nous procurer, et finalement, il procéda à une sorte d'examen rapide de quelques-uns d'entre nous. Je ne fus pas du nombre de ceux qu'il interrogea, mais je suivis avec attention les questions et les réponses, et il me parut décidément que je pourrais être à la hauteur de la situation. En tout cas, j'aurais pu résoudre la plupart des petites difficultés qu'il proposa, et deux ou trois fois même, il m'arriva de répondre à demi-voix sans être interrogé, ce qui me valut un coup d'œil approbateur du maître. Sur ces entrefaites, 10h30 sonnèrent et un roulement de tambour annonça la fin de la classe. Ces 2 heures avaient passé comme un éclair. Après avoir rapporté nos cahiers à la salle d'études, nous eûmes une récréation d'un quart d'heure et je me retrouvai dans la cour des petits avec les 3 divisions qui y prenaient leurs ébats. En général, on trouvait le temps trop court pour organiser des jeux et l'on se contentait de causer bruyamment. J'errais assez mélancoliquement d'un groupe à l'autre quand j'aperçus Jacques Baudouin, qui semblait aussi embarrassé que moi, ou même un peu plus, à cause de sa blouse bleue. L'instinct amical qui m'entraînait vers lui, aussi bien que notre isolement réciproque, me poussèrent à lui adresser la parole. « Veux-tu jouer aux billes ?» lui demandai-je. J'avais déjà pu considérer que le tutoiement était de rigueur, et j'aurais été désolée de ne pas me conformer aux usages reçus. Quelque étrange qu'il me parut de m'adresser sur ce ton à un enfant que je voyais pour la première fois. La figure sérieuse de Jacques s'éclaira d'un sourire. « Très volontiers, » dit-il. Et tirant aussitôt de sa poche 5 à 6 billes de grès, de l'espèce la plus ordinaire, il les aligna sur le sol après avoir tracé la figure classique à l'aide d'un fétu ramassé à terre. J'exhibais à mon tour, non sans une vanité secrète, un sac de cuir qui contenait, avec quelques billes grises, des billes de marbre blanc et de vert colorié, qui en sont comme la monnaie d'or et d'argent, et nous nous mîmes à l'ouvrage. Je n'étais pas de force avec Baudouin, mais à peine avait-il eu le temps de me gagner 12 billes, quand une voix aigre dit auprès de nous « Ah ! Voilà le rapporteur qui m'accusait ce matin !» Nous levâmes les yeux. C'était encore Tanguy qui était devant nous, et ses paroles désignaient évidemment Baudouin. C'est ainsi que celui-ci le comprit. Allant droit au petit créole, il l'empoigna par les 2 épaules, le secoua comme il aurait pu le faire d'un jeune prunier, puis il lui dit sans se fâcher « Mon garçon, je suis de la montagne et je n'aime pas qu'on m'ennuie. Tiens-toi le pour dit. » Tanguy se le tint pour dit, car il ne souffla pas mot. Une fois de plus, d'ailleurs, le tambour vint le tirer d'affaire en nous rappelant à l'étude. Quant à moi, Baudouin avait définitivement fait ma conquête.